Technologie, science, algorithme,
simulation,
informatique.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 65e épisode du podcast Interstice. Savez-vous que si vous avez un smartphone, ce dernier est activement profilé, sans doute à votre insu, à des fins publicitaires? Aujourd'hui, nous allons parler des traces numériques de nos smartphones et de vie privée. Pour nous éclairer sur ces questions, nous recevons Vincent Roca, chercheur au centre INRIA de Grenoble-Rhône-Alpes et membre de l'équipe Privatix. Vincent Roca, bonjour.
Bonjour.
Vous vous intéressez à l'analyse des risques en termes de vie privée liés à l'usage des smartphones. Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces problèmes de confidentialité des données n'ont-ils pas été traités en amont ?
Alors, je travaille déjà au sein d'une équipe qui s'appelle Privatix, qui est une équipe INRIA qui est spécialisée sur les questions de respect de la vie privée. Donc, nous avons identifié, en fait, assez tôt, la question des accès et de l'exploitation des données personnelles comme étant quelque chose de central pour nos smartphones, parce qu'on se rend compte rapidement, lorsqu'on s'intéresse à la question, que le modèle économique sous-jacent repose pour une grande part justement sur la captation de données à caractère personnel. Donc la question du respect de la vie privée est vraiment centrale dans le modèle économique sous-jacent, et la question de fond qui se pose dès lors, c'est de savoir si cette captation de données à caractère personnel se fait dans le respect de l'utilisateur et de la législation alors française, européenne, pour ce qui nous concerne, ou pas. Et en fait, quand on creuse un peu, on constate que ce n'est pas nécessairement le cas.
En l'occurrence, les fuites de nos données sur les smartphones s'opèrent souvent par le biais des applications mobiles qu'on télécharge.
Tout à fait. Mais je vais replacer un peu la question dans un contexte un peu plus global. Je dirais que c'est pas une question qui est nouvelle, parce que avec Internet, avec nos navigateurs, on a déjà un traçage de l'utilisateur qui est effectué au moyen d'éléments techniques différents, qui sont les cookies, qui sont les boutons des réseaux sociaux pour dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas un contenu, par exemple. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur un smartphone, on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin parce que ce sont des outils que l'on va personnaliser et qui vont à la fois concentrer des informations personnelles, mais aussi en générer d'eux-mêmes. Alors, pour donner un exemple concret de comportement véritablement problématique d'un point de vue vie privée, respect de la vie privée, je prendrai juste l'exemple d'une application choisie parmi d'autres, hein, ça s'appelle Pregnancy Stages. C'est une application qui vise à donner des informations pratiques sur les différentes phases, les différentes étapes de la grossesse. Voilà. Donc on a étudié cette application et sur notre téléphone Android qui a été modifié de façon à savoir ce qu'il se passait véritablement. Et donc on a vu que en quelques dizaines de secondes, l'application avait accédé à la liste de toutes les applications en cours d'exécution sur mon téléphone et a transmis cette liste à une société active dans le domaine de la publicité en ligne. Cette application a également accédé à ma localisation géographique en moins d'une minute, a transmis le tout à la même société, AirPush. Là encore, ça n'a aucun rapport avec la finalité de l'application. Elle a aussi capté un identifiant technique stable qui s'appelle l'Android ID, parce que je suis sur Android en l'occurrence, qui va marquer, identifier mon téléphone de façon unique pendant toute sa vie, pendant toute sa durée, et cet identifiant va permettre ensuite de me tracer au long terme. Et puis, au passage, l'application a également récupéré l'identifiant du pays dans lequel j'ai mon contrat avec mon opérateur de téléphonie mobile, via ma carte SIM, et l'a transmis également à une société tierce. Voilà. Donc, ce qui ressort, c'est clairement l'objectif de cette application n'est pas seulement de me fournir des informations sur les étapes de la grossesse, mais c'est vraiment de capter un maximum d'informations personnelles de façon à pouvoir ensuite créer un profil. Et l'éditeur qui édite cette application, on édite une quarantaine, et je parierais que la plupart ont le même type de comportement.
Cela signifierait en gros que l'éditeur récolterait des informations et les revendrait à d'autres éditeurs ?
Oui, tout à fait. Alors, donc c'est un modèle économique qui pourrait être respectable s'il était fait de façon convenable, conforme à la législation, en informant en particulier les utilisateurs. Mais ce que l'on constate dans les faits, c'est que la collecte est faite de façon tout à fait différente, elle est très massive. Il faut voir que certains acteurs du domaine sont capables chaque jour de collecter des informations issues de plusieurs milliards de sessions applicatives de par le monde. La collecte est parfois disproportionnée aussi au regard du service qui est rendu par l'application. l'utilisateur n'est pas nécessairement informé et en aucun cas on n'a obtenu son consentement libre et éclairé, comme on dit dans le domaine. Donc il y a véritablement un problème de fond, non pas dans le modèle économique, mais dans la façon dont son modèle économique est mis en œuvre. Alors, tous les terminaux mobiles sont concernés par ces problèmes de collecte d'informations à caractère personnel, mais on voit des différences considérables entre les différents écosystèmes. Alors, nous menons depuis maintenant 3 ans un travail dans le cadre d'un projet commun INRA-CNIL qui s'appelle MobilityX. Un des objectifs de ce travail est de comparer justement les techniques mises en œuvre par les différents acteurs suivant les écosystèmes. Et en pratique, on s'est focalisé sur Apple et Google, donc d'une part iOS et puis d'autre part Android, parce que à eux deux, ils couvrent à peu près 90% du marché français.
Alors, quels résultats avez-vous obtenus en 3 ans? Quelles solutions proposez-vous?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même après 3 ans de travail, on n'a pas de solution de miracle. On n'a pas de logiciel que l'on pourrait installer sur tous les téléphones du marché et qui résoudrait miraculeusement tous les problèmes de captation de vie privée, de données à caractère personnel que l'on peut observer. Alors, pour essayer d'améliorer la situation, je pense qu'il faut pouvoir exposer au grand jour les pratiques. C'est important, à un double titre. Déjà, il faut que les différents acteurs se sachent observer. Voilà ce qu'on appelle en anglais « tracking the trackers », donc tracer ceux qui nous tracent. C'est vraiment un point essentiel parce que les acteurs, les sociétés qui sont actives dans le domaine sont très sensibles à leur réputation. C'est quelque chose d'important pour elles. Et donc, c'est un levier qui a déjà fait évoluer bien souvent la situation dans le bon sens. Donc ensuite, il est important de comprendre que les agences de protection de données ont aussi besoin de données brutes, et je pense en particulier à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Et les logiciels que nous avons développés dans le cadre du projet MobilityX permettent de savoir comment se comportent ces outils, ces smartphones qui ont envahi notre quotidien.
Et qui cachent donc beaucoup de choses.
Alors le point essentiel qu'il faut bien comprendre, c'est que la société qui édite le système d'exploitation a une responsabilité énorme parce que c'est elle qui va définir les règles du jeu. Et ces règles du jeu, ensuite, devront être suivies par tous les acteurs du domaine. Donc les sociétés qui fournissent, qui développent des applications, qui les mettent à disposition, les sociétés qui, derrière, proposent des bibliothèques qui vont permettre de capter des informations personnelles et de profiler les utilisateurs, de façon ensuite à pouvoir proposer de la publicité ciblée, mais aussi les sociétés qui vont gérer des marchés d'applications, etc., etc. Et là, on voit clairement des différences entre Apple et Google. Donc depuis 3 ans que l'on observe ces deux écosystèmes, on voit des tendances qui se dessinent clairement. Et autant la situation s'est nettement améliorée dans le cas d'Apple, avec en particulier un iOS 8 qui est vraiment restrictif sur les données à caractère personnel qui peuvent être captées par les applications, qui donne un peu de contrôle, même si c'est perfectible, à l'utilisateur, qui peut donc dynamiquement, à tout moment, agir sur les données qu'il autorise ou n'autorise pas certaines applications à accéder. Autant la situation côté Android reste, catastrophique, et je ne vois pas en 3 ans d'études d'évolution majeure par rapport à cela. Donc c'est vraiment un problème de volonté et ce n'est pas totalement surprenant puisque le modèle économique de Google est largement basé sur de la captation de données. Juste un chiffre pour rappeler un peu la situation. En 2013, Google a fait plus de 8 milliards de dollars de recettes pour la partie publicité mobile. Donc c'est vrai que derrière, il faut capter des informations personnelles et Android permet de le faire assez librement.
Quels sont les enjeux autour de vos travaux?
Alors, le travail n'est pas achevé, ça c'est clair, même s'il a bien avancé depuis ces 3 ans. Alors, il faut comprendre que le domaine est en perpétuelle évolution. Les acteurs changent de stratégie régulièrement. On a vu dans le passé, par exemple, Apple qui a interdit l'accès à un identifiant unique, bien pratique, qui était l'UDID, le User Device Identifier, qui était largement utilisé par les acteurs du domaine du traçage publicitaire pour identifier de façon unique et au long terme un utilisateur et un téléphone. Voilà. Alors ce que l'on a observé par la suite, c'est que les acteurs du domaine du traçage publicitaire se sont mis à contourner cette limite en développant une solution alternative, en l'occurrence l'OpenUID, qui fonctionnait de façon totalement différente, mais qui au final rendait un service relativement proche. Donc voilà, donc ce sont des choses qui existent quand le domaine évolue, d'une certaine façon, eh bien, les différents acteurs évoluent aussi, font évoluer leurs systèmes, leurs outils. Donc suivre et analyser ces évolutions, comprendre ce qui se passe, comprendre comment les différents acteurs réagissent, c'est quelque chose d'essentiel. Mettre à jour nos outils pour qu'ils soient toujours utilisables avec les nouvelles versions du système d'exploitation est quelque chose là aussi qu'il est indispensable de faire, mais tout cela n'est pas une sinécure, ça prend beaucoup de temps et d'énergie.
Pour finir, quels conseils donneriez-vous aux utilisateurs ?
Alors l'utilisateur pour sa part, il est un peu tout seul, mais il a malgré tout des moyens de minimiser les risques. Je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut voir le problème. L'utilisateur peut déjà limiter les applications qu'il va installer sur son téléphone. Je pense que c'est la première des règles. Désinstaller systématiquement toutes les applications dont il ne se servirait pas. Arrêter les applications de façon explicite plutôt que laisser s'exécuter en tâche de fond, par exemple. Faire attention aux applications lorsqu'on les installe, aux permissions qui sont demandées. Ou dans le modèle Apple, regarder et modifier les autorisations que l'on donne via le panneau de contrôle vie privée aux applications. Voilà, donc il y a une dimension importante, c'est la géolocalisation. Donc la géolocalisation, faire attention aux applications qui y ont accès. L'interface Wi-Fi est également essentielle parce qu'elle permet d'acquérir beaucoup d'informations sur sa localisation, sur son historique de connexion au point d'accès Wi-Fi. Donc l'interface Wi-Fi, il faut systématiquement l'arrêter quand on n'en a plus besoin. Voilà. Et bien évidemment, ne pas casser la sécurité du téléphone au prétexte de vouloir le personnaliser davantage. Le jailbreak, le routage de téléphone côté Android Apple sont des pratiques qui sont assez dangereuses. Voilà. Et puis, pour finir, je dirais que si on n'a pas un usage très important de son téléphone, on peut aussi choisir un téléphone limité au GSM. Il y a des bonnes références en la matière, des téléphones qui ont même un écran tactile, bien pratique pour écrire des SMS. Voilà. Si ça suffit, pourquoi pas.
Vincent Roca, merci d'avoir accepté cet entretien.
Merci.
Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.